Donc, on avait parlé de Baruch Shama dans le cours précédent où la force du dévoilement de la Kadosh Baruch Hu dans le monde se fait par la bouche de Am Israël, Ameulal Befe Amo. C'est celui qui est loué par la bouche de son peuple, Meshubach ou Meshuar, et ainsi de suite. Et on a expliqué que Ameulal Befe Amo, c'était la reconnaissance de la grandeur du divin qui se trouve à l'intérieur de nous. Et donc nous sommes dans la partie un petit peu grasse, là. Ameulal Befe Amo, c'est souligné. Hakarat Agodel Elohi Hizgula, le fait de reconnaître la grandeur divine, c'est une Segula. Car tout dessin humain est bien inférieur à la lumière du divin, la lumière supérieure. Et c'est pourquoi ce n'est qu'un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Israël. Quand le Rav dit ce n'est qu'un cadeau dans Olat Re'aya, il veut dire par là qu'on n'a pas de possibilité de comprendre le fond de ce cadeau. C'est-à-dire que Baruch Hu nous a donné un cadeau, il a planté en nous cette Segula Israël, et nous n'avons pas trop la capacité de comprendre ce qu'elle représente, de la même manière qu'un homme ne peut pas savoir ce que représente son âme, véritablement. Elle est notre vie, et on ne sait pas trop la définir, on n'arrive pas à la définir. De la même manière, la Segula d'Israël, la grandeur d'âme qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans ce peuple spécial, et on n'arrive pas à la saisir. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas à la mesure de l'homme, elle n'est pas aux mesures de l'homme d'une manière générale, c'est un cadeau qui vient du divin. Alors, prenez l'habitude que dans les cours que le Rav Kook va expliquer, va donner, il y a toujours cette notion du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Quand on parle de haut vers le bas, on parle d'un cadeau qui vient du divin, avec lequel nous n'avons pas trop le choix. Alors que lorsqu'on parle du bas vers le haut, ça c'est déjà le travail de l'homme, et dans ce cas-là, l'homme peut intervenir, peut avoir son mot à dire, entre guillemets, c'est-à-dire que lui va définir la quantité, la qualité de ce qu'il va recevoir. On peut comprendre que le don de la Torah a été donné de la même manière. Est-ce qu'on avait le choix ou pas de recevoir la Torah? Je vous pose la question. Oui ou non?
Non, mais
on n'a rien demandé. Kafa alehem et tahar kedidi. Non. On n'a pas de choix. Nachon. Il y a un midrash qui dit qu'Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah à tous les peuples. Il faut comprendre ce midrash qu'il veut nous enseigner. Le midrash veut nous enseigner tout simplement qu'en réalité, la Torah n'appartient à personne, ne peut pas appartenir aux autres peuples. Ce n'est pas qu'il est allé demander à tel peuple et tel peuple. C'est qu'elle n'a pas d'appartenance à ces peuples. Donc ils ne peuvent pas la recevoir parce qu'elle ne fait pas partie de leur vie. Alors que chez nous, c'est Israël. C'est l'inverse. Ce que la Gemara nous dit dans le traité de Shabbat à la page 85, c'est qu'à l'époque où nous a forcé, entre guillemets, à recevoir la Torah, quelque chose qui nous a forcé, ça fait partie de notre vie. Ça n'a aucun rapport avec j'accepte ou je n'accepte pas. C'est comme si tu dis, non, je ne veux pas vivre. Mais tu vis. Maintenant, si tu veux arrêter cette vie, tu ne peux même pas l'arrêter cette vie. C'est-à-dire que tu vas arrêter la vie du lien de ton corps avec ton âme, mais ton âme, tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas dire à ton âme, arrête de vivre. Ça n'existe pas. On ne me demande même pas mon avis. Avec des mots simples, je reprends. La Torah fait tellement partie de nous, c'est tellement nous, c'est tellement notre vie, qu'on n'a même pas le choix de la refuser ou pas. Refuser, ça voudrait dire s'annuler, s'autodétruire immédiatement. Ça n'existe même pas. C'est comme si tu n'aurais même pas existé, jamais. Donc, moralité, nous n'avons pas le choix de ça. Encore une fois, je vous pose la question alors. Si on n'a pas le choix de ce don de la Torah, de quoi alors on a le choix? Puisque l'homme, est-ce qu'il a un choix ou pas dans sa vie? On est obligé de dire que l'homme a, lui, un choix. Il a une libre-arbitre, il a un libre-arbitre. Okay? Alors, où est son libre-arbitre? C'est ce que je viens de vous dire. Que la Torah nous a été forcée, donnée d'une manière forcée. Alors, où est le libre-choix? Bien fait. Tout simplement. La Torah, on ne te demande pas ton avis. Elle fait partie de ta vie d'une manière naturelle. C'est ta nature profonde. C'est l'être Israël sans Torah qui n'existe pas. Ça marche ensemble. Alors, ton libre choix ne se situe pas à ce niveau-là. Où est-ce qu'il va se situer? Dans le fait de vouloir le réaliser ou pas. Nous sommes libres de choisir le bien, c'est-à-dire de vivre selon, mais pas ce qu'elle est, ou qu'elle soit en nous. C'est-à-dire que tu sois religieux, non religieux, la Torah est en toi. Chaque homme d'Israël, la Torah est en lui. Le peuple d'Israël, la Torah est en lui d'une manière naturelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va vivre selon elle ou pas? Ça, c'est son choix. Mais ça ne concerne pas la Torah dans son essence. La Torah dans son essence nous appartient. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Point à la ligne. On n'a même pas demandé, on ne nous a même pas demandé notre choix. Il nous a choisi lui et il nous a donné la Torah lui. Donc nous avons la Torah, ça fait partie de notre nature. On est avec cette Torah en nous. Ce qu'on en fait, c'est autre chose. Si je vis selon elle, alors je choisis le bien, comme tu as dit tout à l'heure. Et si je ne choisis pas de vivre selon cette Torah, alors en réalité, j'étouffe, mais elle est en moi. Je l'étouffe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je n'ai pas réalisé ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné gratuitement. D'accord?
Est-ce qu'on peut dire qu'on est libre de choisir, qu'on n'est pas choisi?
Bien sûr, c'est libre de choisir si tu réalises cette vie ou pas. Et donc, tu as une nouvelle définition de la vie, très, très importante, ta question est importante, parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est vivre ou ne pas vivre? C'est pas marcher dans la rue. Vivre, c'est réaliser son être. Réaliser ce pourquoi tu es né. Si tu ne réalises pas ce pourquoi tu as été créé, tu n'es pas vivant. Et c'est pour ça qu'un racha... Non. Pas du tout mort, non. Un racha est appelé mort. Directement, pas lentement. Ressaïm a filou bechayehen kruim metim. Les ressaïm, même de leur vivant, sont appelés morts. Pourquoi ils sont appelés morts? Selon la définition qu'on vient de dire. Parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils sont venus réaliser. Donc ils ne veulent pas vivre selon le code qui est à l'intérieur d'eux. Et donc tout Israël qui vit selon le code qui est en lui s'appelle Tzadik. Et tout Israël qui ne vit pas selon le code qui est en lui, Chas v'Shalom se retranche, il s'appelle Racha. Quel se réfute c'est l'atmo. Racha, c'est quelqu'un qui est sorti du reshout à Klal, qui est sorti du collectif, et qui, Chas v'Shalom, s'est retranché lui-même du peuple, c'est-à-dire qu'il ne réalise pas le peuple par ses actes. Comme on le dit dans la Haggadah de Pessah, Racha, le fils se retient, est Asmo min Haklal. Kafar Baikar, celui qui est sorti du Klal, il a repoussé, il a renié l'essence même, l'essentiel.
Quelle est la valeur profonde de vouloir réaliser?
La valeur profonde, c'est tout simplement d'être. Ça veut dire d'exprimer la vie du divin qui est en moi.
Dieu nous a créé avec la volonté de se dévoiler.
Dieu nous a créé avec la capacité. La capacité. La volonté, c'est toi qui dois voir si ta volonté c'est la sienne, ou si tu retranches ta volonté de la sienne. Si ta volonté n'est pas la même, entre guillemets, que la sienne, alors, Chas v'Shalom, l'homme est en train de sortir du ration divin. Et s'il sort du ration divin, et Chas v'Shalom, il est rentré dans son ration à lui, ça s'appelle le rachat. Okay, je répète, les initiales du mot Racha, trois lettres, c'est Raton Shel Atmo. C'est-à-dire son désir à lui et pas le désir d'Akadosh Baruch Hu, pas la volonté d'Hashem, pas le respect d'Hashem. Moralité, nous n'avons pas le choix du départ, mais on a le choix de la réalisation. Okay, la graine de départ est donnée et la réalisation dépend de ce que nous voulons ou pas. Donc c'est pour ça que le Rav dit ici, Alken Rak Matnat Hashem Hi. Ce n'est qu'un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Matnat Hashem Hi. C'est Mishna l'Israël qui a été donné à Israël. C'est Meira de Mishmatam Pnima. Cette Neshama éclaire en eux, à l'intérieur, okay, d'une manière très profonde. Ota ora Elohim, c'est Aliada, que c'est Hem Baim le Safer et Godlo Ha'elion, c'est le Nora Teilot Baruchu, Hem Mevi'im et Hadvarim, Mitoch Ota Nekudat Ha'ora, c'est Him Meira et Hatsiurim Achashuchim, c'est la Nivraim. Je traduis, okay, quand cette lumière divine, qui grâce à elle, lorsque les enfants d'Israël vont commencer à parler, à raconter le divin, autrement dit, nous sommes faits de telle manière qu'en ouvrant la bouche, nous devons raconter le divin. Si on laissait notre nature se réaliser naturellement, sans l'embêter, sans gêner, à chaque fois qu'on ouvrirait la bouche, on parlerait de Kodesh, d'une manière naturelle. On est fait pour ça, on a été créé pour ça, de cette manière-là. C'est-à-dire, notre nature, c'est de parler de Kodesh. Et donc, de parler de sa grandeur, de réaliser, en fait, le divin sur terre. Nora Teilot Baruch Hu. Et quelle est cette qualité-là? Qui nous a donné cette force-là? Ce point, il appelle le Nekudat Ha'ora, Elohim, le point de lumière divine, c'est Imeirai Tatsuri Machashkrim Shalim Ibrahim, qui va éclairer tous les dessins obscurs de toutes les créatures. Avec des mots simples, ce monde est un monde obscur, puisqu'il ne dévoile pas clairement la lumière de Dieu. Donc en hébreu, on appelle celui qui cache, Olam, qui vient du terme Ne'elam, celui qui cache, qui camoufle. Ma, non. Non, Ne'elam, ça veut dire qu'on ne le voit pas. C'est caché de l'œil. Celui qui est perdu, c'est Avad. Alors il boude. Okay? On a entendu Ne'elam, ça veut dire je ne le vois plus. Ne'elam, Ne'enai, ça veut dire qu'il est caché de mon œil. Mais pas perdu. Pas perdu. Okay? C'est moi qui ne le vois pas. Il est Ne'elam. Donc le monde joue ce rôle. Alors qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Je dois enlever le Ne'elam, je dois enlever le masque pour dévoiler ce qui se cache à l'intérieur. On y a un jeu. Akadosh Baruch Hu a créé un monde masqué, et moi je dois enlever les masques, c'est toute histoire de pourri, pour dévoiler Dieu à l'intérieur de l'histoire. C'est bon ou c'est compliqué? Donc, quand je travaille dans ce sens-là, je dévoile Akadosh Baruch Hu qui se cache normalement, comme la Neshama dans le corps. Est-ce que la Neshama est visible dans le corps? Non. Le corps cache l'âme. On est d'accord? Mais si le corps fait des actes qui réalisent cette âme, c'est-à-dire que c'est les mitzvot qui correspondent à cette âme, qu'est-ce que je fais? Je permets à l'âme de vivre et de faire vivre le corps beaucoup mieux. Je suis appelé vivant. La même chose qu'au niveau d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il faut bien comprendre que l'âme dans le corps, c'est comme Akadosh Baruch Hu dans l'univers. L'univers, c'est le corps d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, à l'intérieur duquel Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. Donc de la même manière que je comprends que mon corps est une enveloppe qui doit réaliser, aider à réaliser mon âme, et je ne dois pas négliger cette enveloppe, parce que c'est grâce à elle que je réalise cette âme, de la même manière, je dois respecter la nature, le monde, avec tout ce qu'il comporte, les animaux, les arbres, le végétal, le minéral, l'animal et les hommes, bien entendu. Je dois respecter toute la vie Parce que cette vie-là réalise le divin. Et si moi je détruis la vie, Chas v'Shalom, alors je suis en train de faire un attaque, même au niveau du dévoilement divin. Donc je dois, moi, augmenter la vie, je dois aller dans le sens de la vie, tout ce qui amène vers la vie, je dois être un participant, et je dois détruire, bien entendu, tout ce qui va contre la vie. Un terroriste du Hamas qui va contre la vie, je dois le détruire. Parce que lui massacre la vie, casse la vie. Donc il ne rentre pas dans mon système. Il rentre dans le système de la destruction, automatiquement il est hors jeu. Et il est interdit de parler avec lui et de commencer à faire des négociations telles qu'il soit avec lui. Donc en réalité, l'homme fait ce travail-là. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, va éclairer le monde par la lumière de vérité supérieure. Ce qu'il ne ment pas. Il ne rajoute rien de lui-même. Il est transparent. C'est un canal du divin sur terre. Donc Akadosh Baruch Hu l'utilise à cet homme-là. Et grâce à lui, on a plus de vie. Qu'est-ce que ça veut dire plus de vie? À chaque fois qu'il y a un cours de Torah, par exemple, il y a plus de divin qui se dévoile sur terre. Un cours de Torah, ce n'est pas juste pour donner de la connaissance à 5 élèves ou 10 élèves. C'est amener de la vie sur terre. Donc, dévoiler plus de divin. Vous devez donner des mesures. S'il y avait 3 degrés de divin avant le cours, je suis censé amener 5, 6, 7 degrés de divin après le cours, en plus. C'est-à-dire que je multiplie la vie. Je vais dans le sens de la vie, j'aide la vie et je vais avec elle. Comme si j'étais dans un grand fleuve, dans un grand torrent, et moi je suis dans une petite barque à l'intérieur de ce torrent et je vais dans la même direction. Donc et ça, même sans faire d'effort, je suis poussé par l'énergie de ce torrent qui m'amène encore plus vite vers là où je dois aller. C'est pour ça que ça s'appelle Nahal Novea. C'est un fleuve qui coule. C'était très fort, et tout celui qui fait des chidushim, qui donne des nouveautés dans la Torah, il s'appelle, Na'asa Kema'ayan Hamilit Gaber. Il devient comme une source qui devient de plus en plus vibore, c'est-à-dire une puissance qui se bonifie au fur et à mesure qu'elle dévoile de la vie. Autrement dit, après un cours, je dois être beaucoup plus fort qu'avant un cours. Une fois que j'ai terminé un cours, je dois me sentir plus vivant. Okay. Quoi? Ça concerne quoi par exemple? Si tu fais une avera, c'est beaucoup plus mort après, donc ça ne concerne pas tout. On est d'accord? Quelqu'un qui fait une avera, il est plus mort après qu'avant. Oui ou non? Donc tu es d'accord avec moi? Tu retiens ce que tu as dit? C'est pas partout. Il n'y a que ceux qui réalisent le divin qui amènent la vie. Si tu fais quelque chose qui est contre le divin, donc comme ce terroriste, Chas v'Shalom, je ne peux pas dire ce que tu viens de dire. C'est l'inverse. Il a amené de la mort, donc il ne réalise pas le divin, Chas v'Shalom.
Mais alors comment savoir si Dieu est caché?
Oui.
Ou si Dieu n'est pas dévoilé par l'intérieur de cette personne, par exemple ce terroriste?
Comment savoir?
Il ne dévoile pas.
Justement, quand quelqu'un va dans la base, l'absolu, la base normale, naturelle, tu regardes les animaux. Si tu ne sais pas où tu es, regarde les animaux. Est-ce que tu as déjà vu un suicide d'un animal collectif? J'en sais rien, moi. Ça n'existe pas. Un animal se protège naturellement. Dès qu'il est en danger, il se protège. Okay? On ne va pas voir un animal préparer un attentat. Okay? Non. Même quand il va tuer, l'animal, c'est pour vivre. Pour manger, pour mieux vivre. Mais tuer pour tuer, massacrer pour massacrer, tuer parce qu'il faut tuer, ça c'est une destruction de la planète, Chas v'Shalom. Donc celui-ci ne dévoile pas Dieu, au contraire, il est tout Chas v'Shalom, il faut nous l'enlever de notre chemin.
Cette notion de dévoiler caché, elle n'a pas la même valeur que l'être humain. Parce que lui décide de le dévoiler ou pas, mais il n'est pas caché Dieu.
Je ne comprends pas ta question. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se casse, Ata El Mispater, c'est une vraie vie.
Mais nous, on décide de le dévoiler.
Ça dépend. Ceux qui sont sadikim, oui. Ceux qui ne sont pas tzadikim, non. Lui, de toute manière, ce monde le cache. Le monde cache Dieu. La nature cache Dieu. De par la nature. C'est-à-dire que quand je sors dans la rue, si je n'ai pas un œil profond, une étude ou quoi que ce soit, je peux te dire que tout est naturel. Moi, je ne vois pas Dieu là-dedans. Achen ata elistake, c'est vrai, Dieu, tu es un Dieu caché. Je ne te vois pas, je peux dire que le monde fonctionne, c'est naturel, je ne sais pas. Je n'appelle pas Dieu. Si je commence à étudier, à approfondir, je vois que cette nature, en réalité, c'est une manifestation du divin. Et après, je commence tout doucement à comprendre comment je peux rajouter un peu plus de vie dans ce monde, c'est-à-dire du divin. Dans la Torah, ça apparaît d'une manière très simple, c'est deux noms de Dieu. Le premier nom, c'est le tétragramme, Yud-Ké-Zaché. Et le deuxième nom, c'est Elohim. Elohim, c'est en valeur numérique, c'est la nature. Alors que le tétragramme, Yud-Ké-Zaché, c'est au-delà de la nature. C'est plus profond. Quand je fais l'association des deux, comme par exemple dans la première des paroles, des 10 paroles données au mont Sinaï, qu'on a lu Shabbat Yitro, Anochi, Hashem, Elohecha. Vous remarquez qu'il y a deux noms. Alors en français on dit un truc bidon, je suis l'éternel ton Dieu. Ça ne veut rien dire. En hébreu, Anochi Hashem, Yudke Vavke, Elohecha Elohim. C'est-à-dire, je suis celui qui est hors nature et qui s'habille en même temps dans la nature. Et c'est cette force-là, cet accouplement qui t'a fait sortir d'Égypte. Autrement dit, sans cet accouplement, tu ne peux pas sortir d'Égypte. Sans que tu comprennes, je vais le traduire maintenant avec des mots un petit peu plus profonds, sans que tu comprennes que le Dieu qui est de l'au-delà, on va l'appeler le transcendant, est associé au Dieu qui est à l'intérieur, c'est-à-dire l'immanent, sans cette association des deux, tu ne sortiras jamais d'aucune Égypte dans ta vie. Tu seras toujours dans une Égypte. Chacun a son Égypte. On est d'accord, on a compris que l'Égypte, c'est pas un pays. Tu as tes étouffements, tes blocages, tes systèmes qui ont massacré la vie jusqu'à maintenant, ça s'appelle Mitzrayim, ce sont tes Égyptes. Et toi, tu choisis de sortir ou pas, tu vas choisir. Comment tu choisis? Comment tu peux sortir de vie un jour? Comment tu peux espérer un jour te libérer de tes angoisses, de tes peurs, de tes... Peu importe, chacun fait ce truc. Seulement en faisant l'union des deux noms de Dieu. En comprenant que le Dieu Yud-Ké-Vav-Ké, le tétragramme, l'infini, s'habille aussi dans le monde fini. Quand tu fais l'association de Anochi Hashem Elohecha, alors, à faire autre chose, à mère, c'est grâce à ça que tu sors. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Tant que tu sépares, en fait, Dieu du monde, tu ne sortiras jamais de vie. Tant que Dieu est dans le monde et il vit dans cette nature, tu sors de vie. Tu peux sortir de vie. Parce que tu comprends que tout ce que tu vois ici, qui est apparemment naturel, n'est autre que Dieu du monde. Qui s'habille, qui se cache, peu importe, mais c'est toute une manifestation divine de cette vie. J'appelle ça Dieu en français, mais ça veut rien dire. Dieu aussi, c'est grâce, tous ces noms-là. Dieu, c'est le chemin. Ça vient de Dieu. Dieu. Alors, on est loin de Dieu quand même. Alors, malheureusement, en français, c'est les termes qui sont choisis. Alors, on les choisit juste pour le cours, mais ça fait que je suis anti tous ces noms-là. C'est-à-dire là, étudier en français, c'est se casser les dents et trahir. Ou dans une autre langue, déjà. Okay? Alors, on fait un effort parce qu'il faut le faire, mais on ne peut pas étudier en français. On doit étudier en hébreu. C'est la seule langue qui ne trahit pas le Kodesh. C'est pour ça qu'on appelle la zone Ha-Kodesh. C'est le langage du saint. C'est son langage à lui. Alors que tout autre langage s'appelle la zone Avodah Zara. C'est un langage de Avodah Zara. C'est un langage de service étranger qui n'a pas de rapport avec ce Kodesh-là. Alors on le fait parce que malheureusement, de temps en temps, on boite un petit peu parce que l'église nous a massacrés, donc on arrive un petit peu boiteux et on n'arrive pas encore à parler complètement, à assimiler complètement cette langue qui est complètement naturelle. Il n'y a pas plus naturel pour un homme d'Israël que de parler le langage du saint, qui est son langage. C'est quelque chose qu'on nous a créé avec ce langage.
Okay.
C'est pour ça, parce que la Gemara est, un, est une dissertation, est une explication des mitzvot, c'est pas la Torah. C'est la Torah orale, c'est-à-dire que tout ce que les Chachamim viennent dévoiler à l'intérieur. Il y a d'autres questions ou on continue? J'avais une question tout à l'heure, avant celle-là.
Oui, oui.
Pourquoi c'est plus facile de faire des avérot que des mitzvot? Parce qu'on n'écoute pas Tanaki. Nachon, mais le problème c'est que le Yetzer Hara est tellement fort que la plupart de notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On va contre le courant parce que là on a l'impression qu'on fait quelque chose. C'est des gens, des fois, ils sont à la plage et il y a des vagues et tu les vois, ils ne savent pas nager. Généralement, c'est des gens qui ne savent pas nager. Ils ont la tête hors de l'eau et ils sont en train de faire des mouvements de pseudo-nageurs. Pendant des un quart d'heure, 20 minutes, tu le vois faire comme ça. Quand même malade, il est en train de taper dans l'eau. Et il se lève, il n'a même pas fait un mètre. Tu connais ça, d'accord ? Qu'on fait, il vient en arrière. Pourquoi ? D'abord parce qu'il ne sait pas nager. En plus de ça, le peu de force qu'il a pour savoir nager, il va contre le courant. Alors ça ne marche pas. Alors on ne peut pas faire avancer en fait le travail. Donc tu as l'impression que tu fais des efforts, mais tu fais rien du tout. Tu n'avances pas. Toute la chokhma, c'est d'écouter sa propre nature, sa vraie nature. C'est ce qu'on essaie de faire ici dans le shiur. C'est de réécouter la vraie nature, de réécouter le son de l'intérieur qui nous dit exactement dans quel sens il faut aller. Alors là, quand tu prends la vague. Tu montes sur une vague et tu vas avec. Tu n'as même plus d'effort à faire. C'est naturel, ça devient naturel. Tu n'as même plus de force, tu n'as même plus de combat, tu n'as plus rien. Au contraire, ça devient de plus en plus facile, ça devient de plus en plus léger. Parce que tu écoutes ta nature, tu sais suivre ce qu'elle te dit. Okay? Mais si tu n'écoutes pas, et que la plupart des gens, tu as besoin qu'on crée dans un monde, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est caché, c'est pour ça, pour faire travail. Est-ce que j'écoute ma vraie nature ou est-ce que je fais des combats dans le vide et je défonce des portes ouvertes? Et malheureusement, beaucoup, beaucoup de gens font des efforts dans le vide parce qu'ils vont contre temps, contre courant. Et donc ils se fatiguent, ils sont crevés, ils ont l'impression qu'ils ont fait des choses. En fait, ils n'ont pas avancé rien du tout. Donc il faut écouter sa nature. Et pour écouter sa nature, il faut la connaître. Et pour la connaître, il faut l'étudier. Et pour l'étudier, il faut venir au Maqam Meir. C'est là où on étudie la nature. Je ne raconte pas de simple parce que le Maqam Meir, j'étudie dans d'autres niveaux et je connais d'autres endroits. Et je peux vous dire que vous êtes dans l'endroit où on étudie l'âme, où on étudie son être. Pas seulement étudier la Torah. Parce que vous avez l'impression que la Torah, ce sont des textes. Tant que vous auriez l'impression que la Torah, ce sont des textes, vous êtes à côté de la plaque. De la plaque. Ça veut dire, tu connais pas cette expression? Il doit y avoir des expressions qui lui manquent parce que c'est pas français, toi. Donc c'est pour ça. Être à côté de la plaque, ça veut dire ne pas être, si tu dis à ça, ouais, c'est encore plus. C'est-à-dire ne pas être sur le bon endroit. C'est pas sur la bonne plaque, c'est ici. Et pourquoi? Parce que la Torah n'est pas un texte. La Torah, c'est la vie. Le Sefer Torah c'est un texte, mais la Torah c'est la vie. Ne confondez pas Sefer Torah et Torah. C'est pas la tête. C'est pas la tête.
C'est pas
la tête. Bon.
Quand il y a les gens qui disent l'arabe, ils voulant sortir d'Israël, ils viennent en armée d'Israël, ils nous arrêtent de la frontière. Il y a les états de l'arabe qui nous en parlent de cette.
Oui.
Après, la fois avec la vie, les goïmes, on pense que c'est une stratégie pour rentrer d'Israël, faire de la souffrance à son force. Quel rapport ça avec.
Il y a des gens qui sentent la vie. Et qui essayent de rentrer. Quand on est sorti d'Égypte, il y a des gens qui sont rajoutés à nous, qui sont collés. Il y a des gens qui ont une intuition qui est forte, qui savent exactement où ça se passe, qui se disent il vaut mieux aller avec eux, et je sens qu'il y a quelque chose. Tu veux? Maintenant, ce que nous, on doit faire avec ça ou pas, c'est assez compliqué, c'est pas facile. C'est pas facile. De quoi tu parles? Quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Alors,
ok, on prend bien que Dieu est vulnérable pour les personnes. En même temps, on a trois temps de vulnérables.
Mais par rapport à ce qu'on vient de dire, où tu as trouvé le fait de vouloir rentrer ça maintenant, dans ce qu'on vient de dire? Oui, mais au contraire, ça nous permet de chercher. Je viens de dire jusqu'à maintenant que nous, on doit chercher, on doit décoder, on doit sortir. Donc tu vas dans le même sens que ce que j'ai dit.
Oui.
Ah d'accord, après, tu me poses une question parce que c'est exactement ce qu'on vient de dire.
Non,
on ne doit pas trouver sur le miracle. Oui. C'est une difficulté.
Oui.
Tout.
Alors, est-ce qu'on doit
passer
au-delà de ça ou on a besoin de poser la question
et de faire une. Alors, encore une fois, j'ai fait ma raison. Est-ce que c'est ma nature de rentrer en Israël ou est-ce que je vais anti-nature? Tout à fait. Tu auras 10 milliards de raisons pour ne pas la faire et une raison pour la faire.
Il y a 3 raisons pour ne pas la faire. Dans les 3 raisons, on a les. Il y a 3 raisons pour trouver une femme. Pour étudier la Torah, deux raisons qui ont été rencontrées. Et la Parnassa, on peut la faire en tout cas.
Pour revenir.
Pour revenir.
Pas pour repartir. Que tu viens de citer ta malacha. Que tu viens de citer ta malacha. Tu ne cites pas toute la halakha.
Ouais.
Tu cites que la moitié quand tu as dit en France.
Ouais.
C'est-à-dire que. Il y a une autre partie de cette halakha que, comme par hasard, en occulte, ça n'arrange personne. C'est une halakha très importante. C'est-à-dire que quand le Rambam finit de dire tout ce qu'il vient de dire, il dit « Ubiknaï, c'est l'erzo ». À condition que quand il a fini ce travail-là, il doit revenir en Israël. Ça veut dire qu'une fois que... Il ne doit pas se sentir failli, il est arrivé, il a fait son truc et il reste là-bas. Mm-hmm. Non, le problème, c'est que les gens oublient ça. Ils disent, oui, j'ai eu une bonne raison, je suis parti chercher une femme. D'autant plus que les femmes, il y en a plus de là-bas. Il y a 4 femmes pour un homme aujourd'hui. Tu sais ça? Dans le monde, il y a 5 femmes. Vous n'avez que le choix. Que le choix. Il y a 5 femmes pour un homme aujourd'hui. C'est vrai? C'est vrai, j'ai au moins 40 filles à marier. C'est de la folie. C'est de la folie. Alors, ça, c'est une. Le travail, d'accord, peut-être. Il y a des difficultés de temps en temps, machin. Je pense que tu as raison, c'est l'essentiel. Mais il faut savoir aussi que si tu peux aller pour revenir sans arrêt sur le travail, peut-être en attendant de faire ce travail-là. Mal à toi, il y a des difficultés. Et la troisième, c'est quoi? La Torah. Il n'y a même pas de doute, c'est ici. C'est donc le travail, c'est ce qui, pour l'instant, bloque un petit peu le lien. Tu as raison. Tu as raison.
En France, c'est le travail et puis le problème.
L'armée.
Ils
ont peur de l'armée, de venir mourir ici. Hein? D'accord. D'accord. Non, parce que les Français, ce n'est pas un bon exemple. Les Français, ce sont des bons juifs, entre guillemets. Les juifs de France, ce sont des bons juifs. Vous trouverez rarement des juifs de France, des jeunes, qui viennent ici et qui veulent se barrer, qui ne veulent rien faire. Ils veulent toujours aller dans les unités combattantes. C'est des jeunes qui se donnent. Ça veut dire que le juif français, il a une bonne mentalité. C'est quelqu'un qui aime sa terre a priori, au départ. Mais là, on sort un petit peu du sujet. Okay? On est en train de s'éloigner, mais... C'est important aussi de temps en temps de répondre aux questions. Est-ce que c'est bon ou tu as encore tu n'as pas tout à fait. Ça va?
Non, non,
non. C'est ça, on dit
la
pensée
du
jeune,
ouais,
c'est
bien en train parce que là, elle est dans le gaz de ça, mais tu veux, mais on peut faire en fait, on est dans le jeu, c'est pas la différence.
Parce que le problème, c'est que les gens à qui tu parles sont des gens qui ont un système de pensée que la Géoula n'a pas commencé. Non, c'est pas la même chose. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est dans une maison déjà de rétablissement parce qu'il est sorti de sa maladie, mais qu'il est encore faible, c'est pas pareil. T'es d'accord avec moi?
Ouais, mais dans le monde.
Hein? Tu leur dis exactement que c'est la souffrance de deux personnes dans un même hôpital. Les deux sont dans un lit. Le juif de France et le juif d'Israël. Mais les souffrances sont différentes. L'un a les souffrances de quelqu'un qui va mourir et l'autre a les souffrances de quelqu'un qui va accoucher. T'as compris la différence?
Ouais.
Un est agonisant et l'autre, c'est les souffrances d'une femme enceinte qui est en train de donner la vie.
Peu
importe, tu ne sens pas, c'est pour ça que tu es là-bas et toi tu es ici.
C'est
pas grave, c'est pas. C'est pas vrai,
c'est pas vrai.
Mais ça, c'est dangereux, tu leur parles en les passant. Si tu leur parles avec une. Il ne faut jamais dire à quelqu'un, t'as tort. Tu comprends, tu le casses tout de suite. Tu connais maintenant, j'ai eu l'occasion de t'apprécier. Donc en fait, tu casses le langage, tu casses le dialogue. Mais si tu as dit à quelqu'un, tu as raison, mais je vais t'expliquer de cette manière-là, comme ça, comme ça, comme ça, tu verras si c'est. Bon, en fait, il y a beaucoup plus de monde qui monte que des gens qui partent. Donc ça prouve que quoi? Que l'appel est beaucoup plus fort de la terre, malgré toutes les difficultés qu'il y a ici. Et c'est même pas équilibré. Hein. Il y a 10 000 raisons de partir et une raison de venir. Et pourtant, c'est cette raison-là qui gagne. C'est bizarre. C'est un paradoxe.
C'est
pas de problème avec ça. Tu peux aussi faire un travail pour que ça réussisse. On t'a pas dit non, c'est n'importe quoi, n'importe comment. Tu dois tout faire pour que ça réussisse, pour que ça marche. Qu'est-ce qui est facile? De vivre en dehors de.
Demander
quoi?
Demander, c'est un désir.
Alors encore une fois, c'est pour ça qu'on a redéfini un petit peu la vie. Qu'est-ce que c'est vivre? Est-ce que c'est manger et marcher dans la rue? Où est-ce que c'est réalisé son être? C'est pour ça que j'ai commencé le cours avec ça. Vous comprenez exactement de quoi je parle maintenant. Maintenant, c'est plus clair. Alors, combien il faut manger pour pouvoir vivre? Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie en réalité? Si tu fais un travail de rejeter tout ce qui est superflu, tu vas voir qu'en réalité, tu peux te suffire de faire ici. Mais si tu ne te suffis pas de ça et tu as besoin de plein de superflu, alors le monde, il tente complètement. D'accord? Ça veut dire que si ta base, tu comprends que tu dois te réaliser, que l'endroit qui te réalise est ici, tu vas tout faire en sorte pour venir réaliser ce travail ici, même s'il y a des difficultés. Et il y en a. Mais c'est là où tu réalises ton être. Alors que si tu crois vivre parce que tu manges peut-être un petit peu plus, tu as l'impression en fait. Mais tu vis à l'extérieur, il faut faire la part des choses et savoir qu'est-ce que c'est se réaliser et qu'est-ce que c'est ne pas se réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ou qu'est-ce que c'est ne pas vivre, okay? Faire semblant de vivoter. Okay? Alors les gens ils font rire. Ils ont un supermarché dans leur quartier, ils ont l'impression qu'ils ont ça y est quoi. C'est le Olam, ils ont trouvé le. Okay? Ici, tout est rempli. Il y a des gens qui viennent et me disent « Ouais, il y a 200 restaurants cachés à Paris. » Et alors, ici on a 4 000, il y en a un peu. Mais c'est des excuses, des bêtises, hein. Ça ne tient même pas la route. Et tu sors de ton codex dans ta yeshiva à Paris et tu traverses la clipa la plus grande dans toute la rue, tu traverses les métros et les machins, tout ça pour aussi. Alors c'est quoi? C'est juste dans des petits quartiers. C'est juste ici dans une parenthèse, tu te rends vite, il faut que tu cours pour rentrer dans une autre parenthèse, dans une autre vie. Et tout le reste au milieu, c'est de la pourriture. C'est une vie de sous-marin avec des bouteilles d'oxygène, avec des pâtes. c'est pas la vie d'un homme normal qui marche sur sa terre, qui parle sa langue, que les enfants vivent dans leur liberté, dans leur langue natale, et qui réalisent leur rêve là. Je suis désolé. Ça n'a aucun rapport, aucun rapport. La vie n'est pas naturelle, tout simplement, elle n'est pas faite pour cette nature.
Mais
c'est avec les mêmes armes. Hein? Non. Ne désagère pas. Là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a un travail à faire et c'est au bon endroit pour le faire. Là-bas, t'as rien à faire avec un arabe, tu es d'accord? Donc ici, t'as plus de chance de faire amener quelqu'un. C'est ton frère, si tu es conscient que c'est ton frère. Très bien. Alors voilà, il y a plus de gens qui font Tchouva aujourd'hui. Tu sais combien de balles Tchouva il y a en Israël? Non. Vous regardez l'extériorité, c'est ça votre problème. Votre problème, c'est que vous êtes des religieux. Et vous voyez de l'extériorité les choses. Tu vois quelqu'un dans la rue qui n'a pas de kippa, pour toi c'est un philosophe. Non, c'est pas une question de Dieu dans le cœur, ça n'a aucun rapport. Il vit sur sa terre, il donne sa vie pour son peuple, c'est ça. Où en faisant quoi? C'est là, alors, là, ok. Mais non, mais ça n'a aucun rapport avec ça. Aucun rapport avec ça. Mais voilà, il y a des gens qui sont des fatigués au Motorola, mais il faut les respecter. Il y a des juges des nations, il faut respecter. Et alors, ça ne change rien. Mais ne me compare pas à un juge qui n'a pas l'apparence d'un homme religieux avec un ratard. C'est pas un ratard. Ne faites pas des définitions trop faciles. Vous avez des définitions trop faciles du religieux, non religieux, vous les mettez tout dans des petits tiroirs. Pas comme ça. Dis-moi, si je te vois dans la rue, toi, j'amène un type maintenant demain à Ferrine, qu'est-ce qu'il dit de toi? Hein? Et toi, qu'est-ce que c'est? Non, mais est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il est en train de dire? Il va pas te dire que c'est un Zakiloumi, il va dire que c'est un Goy. Oui ou non?
Non.
Il a fait non, ça veut dire quoi? Ça veut dire sa définition. Tu vois bien que c'est pas aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu es beau gosse, tu te fais un petit peu matin, tu te barbes italienne, machin, la chemise un peu ouverte, tu te la joues un peu. Nous, ça veut pas dire que c'est très difficile en anglais.
Mais
peu importe, encore une fois, vous êtes en train de tomber dans le piège de l'extériorité. Ah, c'est ça qui s'est dit.
Comment il veut faire tout ce qu'il y a de bien, c'est-à-dire que la volonté de Dieu, il est parti.
Parce qu'il y a une certaine morale de la vie. Et apparemment, ceux qui, jusqu'à maintenant, leur ont enseigné la Torah, ou le peu de Torah qu'ils ont entendu, ça les a plus dégoûtés, quoi que ce soit. Donc on a une responsabilité, nous, d'aller leur montrer que c'est pas ce qu'ils ont vu. Et quelqu'un qui vient me dit, tu sais, moi je supporte pas qu'on m'étouffe, machin, je dis non, je suis super copain, moi aussi je supporte pas qu'on m'étouffe, machin. Il va me dire, tu comprends pas, c'est religieux? Je dis oui. Il me dit, mais comment tu fais? Je dis, viens, tu viens, je vais te montrer comment tu fais. Toi, t'as l'impression que la Torah c'est anti-nature. Mais vas-y, tu viens, par centaines, ils viennent. Toi, t'as l'impression que c'est anti-nature. Moi, je vais t'expliquer qu'en réalité, je ne fais que respecter ma nature. Et tu vas voir que. Après deux ou trois cours, tu vas comprendre de quoi je parle. Et un juif, tout de suite, c'est pas bien. Tout de suite, même s'il est le plus loin possible. alors que l'arabe que tu as choisi comme exemple en France, tu peux rien faire de lui. Rien. Ici, tu peux aller dormir à Tel Aviv, c'est n'importe qui. Et tout de suite, qu'est-ce que j'étais dans une base aérienne, juste pour que vous compreniez ce qui se passe. J'étais dans une base de l'armée de l'air, pour donner un cours à des militaires. Et le responsable de la base, non religieux, il fait peur, non religieux, il m'envoie un chauffeur avec une voiture. Monsieur, j'arrive, chauffeur, machin, le colonel t'amène directement. Je viens avec la voiture, chauffeur, il me descend devant son bureau. Le type, il me fait rentrer dans son truc. Un cavot. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Il me connaît, j'ai fait quelque chose. Rien. Qu'est-ce qu'il respecte? La Torah que je suis venu enseigner. Il n'est pas religieux, il n'a rien. Rien. Il me sort un verre en verre. Il me dit, excusez-moi, je ne sais pas si vous pouvez pouvoir boire là-dedans. Vous pouvez boire là-dedans où je vous apporte un verre en plastique. De l'eau, c'est bon. Ça, c'est bon. Dis-moi s'il y a un souci, il y a une beauté aussi belle que ça. Il me sert ce qu'il a à me servir à boire, et je fais la bracha devant lui. Pendant que je fais la bracha, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. Dis-moi, c'est pas un sadique ça? Léa Pierre, Léa Pierre! Attends, arrête. Écoute-moi, jamais tu pourras me battre sur ça, jamais. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai une maladie, je suis optimiste. Baruch Hashem. C'est pour ça qu'il y a des tensions. Mais les choses s'avancent doucement. On est tous malades. On se guérit tout doucement. On est dans un rétablissement. Okay? Cet homme aujourd'hui, ça s'est passé il y a quelque temps. Cet homme aujourd'hui, après plusieurs cours, je peux même te montrer son numéro de téléphone, il m'appelle une fois par semaine, okay, pour me demander de la faute de n'importe quoi. Le colonel, oui, le colonel Dabag. Je lui ai fait cadeau le nom de Dieu, Yuskeva, c'est le tétragramme, il l'a mis dans son tiroir, il est dans son tiroir dans la base, à chaque fois qu'il sort, il est de l'armée de l'air, à chaque fois qu'il sort dans une action aérienne, il regarde ce nom-là, il me dit, je marque avec ça. C'est une chose pareille. Alors il n'a pas la tête couverte. Il n'a pas le truc. Mais c'est un type qui est complètement ouvert. Voilà. Après 3, 4 cours, 5 cours, maintenant il me dit, si tu passes par là, viens me voir, je veux que tu me donnes un petit peu quelques paroles de Torah, j'ai besoin.
Alors maintenant c'est considéré.
Il y en a beaucoup de comme ça. C'est le type là, si tu l'avais vu une demi-heure avant. Il s'aurait dit, ah, celui-là aussi, c'est parti de l'aide, j'étais là, vu d'ailleurs, il habite là-bas. Pareil, c'est tout des détails du matin, non, c'est pas comme ça qu'on dit. Ah,
j'ai
pas
l'impression.
Une quoi, une mestiva pour qu'il aille.
Mahomet.
Ça doit être là, c'est au milieu. Moi aussi, je dis que c'est vrai. Franchement, tu sais combien de gens ici ont grandi dans des kibboutzim? Le premier d'entre eux, le Rabbi Gold. Il a grandi dans un kibbout d'Atomer à Saïr. Je sais ce que ça veut dire, ça. Regarde qui est devenu, Baruch Hashem, c'est des hommes d'Israël. Il a juste pris conscience de ce qu'il était. Il est devenu Rosh Yeshiva. Il a étudié avec le Rav Kook. Tu ne savais pas, ça? Ben voilà. Vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous. Il y a un retour extraordinaire dans l'Israël. Alors, chacun a augmenté un tout petit peu. Il y a des terres moins simples. 5 ans après, il est à moins 2. Parce que quand tu vas le voir, tu dis, ah, il est moins 0, il est à moins 2. Oui, mais il est à moins 5, il est à moins 2. Dans 2 ans, il sera à 0, et après, il sera à 8, et après, il va te dépasser. Crois-moi. Ayez confiance, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Le Rav Kook nous a promis quelque chose en plus, il y a une prophétie qui dit que lorsqu'on sera 6 millions de juifs en Israël, il y aura une révolution au niveau de la Torah. On n'est pas loin. Demain ou après-demain, on doit aller passer ici. Non, c'est mon optimisme. C'est bon, on pas longtemps. Mais là, on va y être. 6 millions de vies. Pas de avec les boucles. Ça va pas de vie. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Rien, c'est sûr? Bon. Et là, ok, on continue alors. C'est sur les deux. Donc, Venimtacha Dvalim Mirim de Ora Emet Aelvana. Donc, dès qu'on s'approche de ça, on voit que nos paroles éclairent avec la vérité supérieure. C'est Isaïe, vous connaissez Isaïe? C'est en français, c'est bizarre, mais en hébreu, il s'appelle Isaïa. C'est un peu mieux, mais bon, enfin, Isaïe, ça fait un peu peur. On dirait un animal. Okay. Deutéronome. Vous avez entendu parler du Deutéronome? La Genèse.
Le Pentateuque.
Tu connais cet animal, la Genèse? La Genèse, elle a une portée de 4 6. Okay. C'est Deutéronome, c'est plus grave encore, parce que c'est le mâle. Okay. Le Lévitique. Tu connais le Lévitique? Bah, ça, la dédance, je ne dis même pas. Bérétis, Mod, Raïka, Vanisbar, Dvarim, arrêtez avec tous ces noms-là. Isaïe, c'est Isaïa. Le prophète Isaïa, quand il parle un tout petit peu, il dit j'ai les lèvres impures et je suis assis dans un peuple qui a les lèvres impures. Tout de suite, un an qui vient, qui prend une braise du iceberg et qui lui met dans la bouche, comme ça qu'il lui brûle la bouche. Il dit fais attention comment tu parles de mon peuple. Alors faites attention quand vous ouvrez la bouche sur un message. Faites très très attention. Amzou Yassar Pilit et Ilati et Saterou. Ce peuple a une qualité spéciale, il est intérieurement bon. Tout ce qu'il fait, ce sont des bêtises extérieures. C'est pas lui. Il est bon dedans. Hein? Les Vadal, tous les frères sont bons. La mère Koula, c'est du pire. Tu les veux pas, ça? Tu mens? Hein? On n'est pas en prison. Il y a une correction des choses. Il faut arriver à ce que le dedans sorte dehors. Même si ton dedans est bon, mais tu fais des actes qui sont mauvais, c'est pas bon. Il faut que tu fasses de bons actes, mais ça ne veut pas dire que dedans tu es pourri. Dedans tu es bon. Okay? Parce que ça fait bon de voir qu'on nous a fait avec ce dedans qui est bon. Alors il faut que ce dedans, on arrive à le faire même dehors. Alors, ça prend du temps, c'est certain, et un peu moins de temps chez d'autres. C'est pour ça que tu es ici. Parce que si tu te laisses parler, tu tombes dans l'été, toi. Non, au contraire, j'équilibre cette parole pour te dire qu'il faut corriger les choses, il faut ramener les gens à la Torah. Je suis pas en train de vous dire de devenir synonyme. Okay? Je suis en train de vous dire juste de respecter les juifs par rapport à son identité intérieure et de tout faire en sorte pour plaire, pour lui montrer combien le code est naturel, pour qu'il revienne. Au contraire. Donc c'est le peuple d'Israël seul qui peut réaliser donc la parole de Dieu. C'est du théâtre. Pour que Israël s'apprime et trouve la terre. Quand Israël commence à faire ce travail-là, c'est-à-dire qu'il raconte le travail de Kadosh Baruch Hu. C'est le Kaimim et Tachlit Abriya. Alors ils sont en train de réaliser l'essentiel même de la création du monde. Pourquoi? Parce que le monde a été créé pour ça, c'est tout. Pourquoi le monde a été créé? Pour quelle raison? Pourquoi la raison que Dieu doit créer le monde? Hein? Ça veut dire quoi? Exactement, il t'a répondu. Avec son langage à lui. Pourquoi? Pourquoi Dieu doit créer le monde?
Pourquoi
est-ce
que c'est toi, non?
Hein? Non, pas du tout. S'il voulait que tu respectes la Torah, il aurait commencé la Torah par les mitzvot tout de suite. Qu'est-ce que tu te racontes dans les mitzvot? Pourquoi il te raconte des mitzvot? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde? Pourquoi faire? On n'arrête pas de le dire, mais c'est pour ça que c'est important de redire les choses, parce que je vois que les choses sont claires, sont restées claires. Le bâti, c'est la base même. Pour se réaliser dans ce monde, pour se dévoiler dans ce monde, dans la matière. Justement, c'est ça la force de Kadosh Baruch Hu. C'est que l'infini a créé l'inverse de lui-même. Qu'est-ce qu'il a créé? Un monde fini. Ça, c'est la force de Kadosh Baruch Hu. C'est de se réaliser même dans les choses les plus finies. Toi, tu dirais, Kadosh Baruch Hu, il est dans le ciel, mais qu'est-ce qu'il n'est pas dans cette bouteille, il n'y a rien dans cette matière de divin. Non. Tu vas arriver à la fin des temps à comprendre que tout est rempli de lui. Ça, c'est la grandeur de la Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on se dévoile. Maintenant, qui va dévoiler ça? Qui est responsable de ce dévoilement-là? Am Israël. Am Zou Yassartini. C'est ce peuple que j'ai choisi pour faire ce travail-là de réaliser. Donc on a une responsabilité. Quand on fait cette responsabilité, quand on la réalise, alors qu'est-ce qui se passe? Le monde, il avance, puisque le but est respecté. Donc en réalité, on est en train de respecter ce pourquoi on a été créé. Qu'est-ce que tu dois faire du matin au soir? Qu'est-ce que tu dois faire? Voilà, tu travailles le matin jusqu'au soir, qu'est-ce que vous devez faire tous? Hein? Qu'est-ce que vous devez faire du matin au soir? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, je vous repose la même question avec d'autres mots. Réaliser Hachem. Réaliser Hachem. Donc réaliser la vie. Donc quelqu'un qui a dit vivre, c'est ça. C'est réaliser la vie, en fait, la vraie vie. Donc à Kadosh Baruch Hu. Et toutes les mitzvot, l'étude, tout ce que tu fais, tu réalises plus, tu amènes plus de vie. Okay? Tu fais dévoiler cette grande lumière.
C'est notre rôle, c'est notre but.
C'est notre rôle, c'est notre but. Ça veut dire que le but, c'est de réaliser Dieu, et le rôle a été donné à Israël.
Pourquoi est-ce que vous avez donné ce rôle ici?
Yassine, pourquoi il nous a donné ce rôle? Parce que. Parce que. Asre Aham, c'est Kafasto. Kafa. Il y a des questions auxquelles, quand tu poses la main, on te dit Kafa. C'est tout. Je ne comprends pas. On ne sait pas. On ne sait pas. D'accord. On sait qu'une seule chose, on sait ce qu'on doit réaliser. Sa volonté, c'est tout. On n'est pas en train de parler de son identité à lui, on ne comprend pas, on ne comprend rien, on n'a pas le droit de parler de ça, de son essence, mais on doit parler de ce qu'il veut de nous. Ce qu'il veut de nous, c'est qu'on réalise son nom, qu'on dévoile son nom dans ce monde. Comment on dévoile son nom dans ce monde? En faisant tout ce qu'on est en train de faire ici, en essayant d'avoir de Hachem, en étudiant la Torah, en faisant des bonnes actions, en étant un homme qui amène plus de vie. C'est tout. Donc mieux vivre. Mieux vivre, c'est respecter toute cette Torah, toute cette lumière-là. Quand tu touches, c'est lié à Zo, chaque essai de, comment dire, ta tête, de brouiller cette connaissance-là, cette vérité-là, ça y a la galoute. Ça, c'est l'exil. Vous avez compris ce que c'est l'exil? L'exil, c'est le brouillage des pistes. On ne sait plus ce qu'on est venu faire. On vit. On mange mieux. Un petit peu plus, ça fait une petite baguette, comme ça.
Mais c'est dans la tête. Mais...
Le premier exil, il est sur terre. C'est-à-dire qu'un homme qui veut faire tshuva, il doit d'abord sortir de son exil physique, okay, comme il était fait en Égypte, vers Tati. Après, j'ai Tati. Très bizarre. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est après j'ai Tati. Je vous ai sauvé. Normalement, c'est la même. Je vous sauve d'abord, après je vous fais sortir. Non, d'abord tu sors à Denis. Une fois que tu es sorti, tu es venu vivre ici, c'est plus facile maintenant de travailler avec toi, parce que tu es dans un univers qui correspond à ce travail que je veux te faire. Travailler avec toi. C'est vraiment une sortie.
En
fait, oui.
Là, il a devenu en dehors du fond, il n'a pas devenu dans le fond.
Oui.
D'accord.
Ça, c'est une des explications. Okay. De l'autre carte aussi. Il y a certains commentateurs qui disent que le monde final, il fait partie des affaires du
fond. Il a devenu en dehors, justement, pour.
Que ce soit appartenant.
Non, pour montrer que vous pouvez l'appliquer n'importe où. Il y a
fait un.
Il y a des gens qui pourraient vous dire que.
Vous connaissez ce qui ça. Vous connaissez ce qui ça. C'est toujours la même.
Okay. Si on a un parcelle ou un châtel, on peut aussi l'appliquer.
D'accord. Seulement, tu l'appliques avec des bouteilles d'oxygène et des palmes. C'est ce que je vais expliquer dans un séminaire. Donc, je leur dis, si vous voulez marcher comme un homme normal, sans palme, sans bouteille d'oxygène et des tubas, okay, venez vivre sur la terre. Mais si vous voulez continuer à faire la Torah avec des tubas et des bouteilles d'oxygène et des palmes,
une
combinaison plongée.
C'est
pour ça qu'il y a un séminaire. C'est pour ça que les rabbins vont essayer d'expliquer la Torah, comment elle doit être vécue, la vraie Torah, la Torah de l'Israël. Okay. La Torah, vous êtes bien d'accord que la Torah n'est pas faite pour Koutla, la Gemara le dit, un Torah, c'est Torah, c'est la Koutla.
Il y a
fait l'autre, c'est pour ça qu'ils sont là-bas. Je vous ai raconté une fois, je lui donnais un cours dans une synagogue à Nice, une petite vieille s'est levée, elle m'a dit, monsieur le rabbin, pourquoi les jeunes ne parlent pas comme vous ici? Je lui ai dit, parce que madame, tous les gens qui parlent comme moi, ils sont déjà partis. Eh ouais, c'est qui obtenu.
D'abord,
quand on a la c'est un grand pas. Non, à part de toi, mais d'une manière générale, tu sais.
Mais d'ailleurs, tu prends
les
gens à la
cour, ils sont juste en vacances. Oui. Oui.
Moi,
c'est mon dernier.
Il a
deux
fois,
il a dit
mais
moi,
je
l'ai mis par un peu. Mais quelle est la donnée de base? Je ne comprends pas.
Ah,
encore une fois, la donnée de base, c'est l'argent. C'est... Alors, il faut encore une fois revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que vivre?
Oui, c'est bien. Ok, mais...
Explique aux gens qu'est-ce que c'est que vivre. Est-ce que vivre, c'est gagner sa vie? Okay. Ou est-ce que vivre, c'est protéger son peuple et garantir que tes enfants, tes petits-enfants, vont parler les bois et vont se marier avec des juives? Hein? Tu veux nous garantir ça? Il y a au moins 90% de te planter là-bas et 10% de te planter ici. Alors, si tu as une chance de gagner au loto à 90% à 10%, tu joues avec les 90%, d'accord?
Demain, par exemple, il y a les 500 000 juifs de France qui viennent ici. C'est évident qu'il n'y aura pas de succès pour tout le monde.
Même si tu repasses midi, on les avale. Ils sont absorbés en 2-3 ans. Et donc, il ne faut pas avoir peur, en tout cas pour celui qui veut, qui t'appelle.
Ah, moi, je veux.
Non, qui te pose cette question.
Ouais.
Il dit pourquoi il y a de la place. Et là, tu peux rentrer dans un groupe de 400
000. Ouais,
mais... Dis-lui, toi, il y a bien une place. J'ai une place. Pourquoi il y a bien une place. C'est, on peut trouver toujours des inanimes pour essayer de sortir. Hein.
Mais
on va d'accord.
Il y a des gens qui sont
ils ont raison. Ça veut dire qu'il y a une million de juifs qui sont déjà mariés avec les goyotes et eux, ils se disent non, non.
Ils
ont raison. Et alors on peut mourir avec eux? Il y a des chiffres. C'est pas des... Ça, c'est plus de la Torah, là, c'est des chiffres. Et alors là, c'est un mitzvah. C'est un mitzvah, tu vas à la Zongie, ici. Non, je rigole pas. Et tu demandes tous les comptes de mariage mis. De l'assimilation, demande ça, fais un travail comme ça. Mais tu prends ça quand tu vas en vacances là-bas.
Le
c'est un ça. Fais le travail et vois combien. Et combien là-bas en France ont un nom juif, mais qui ne sont pas juifs. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, la langue
de
c'est vrai, ils connaissent tout, ils font un travail, ça c'est un travail. Tu dis que tu fais un travail, c'est moi qui t'ai envoyé, on fait un travail pour la Alia, on fait un séminaire avec eux. Non, je rigole pas. Tu dis que le rabbin Tuchman fait des séminaires et on veut savoir exactement les comptes et les matins des mariages mixtes et des assimilations, comment ça marche. C'est le fait, c'est le même. Ça m'intéresse aussi. En France, aux États-Unis, ils demandent des deux. Les chiffres en France, c'est à peu près entre 60 et 70% d'assimilation de mariage mixte.
C'est
pas dingue. Même pas 30 ans, c'est gentil.
Dans 20 ans, il y a plus personne.
Oh, c'est gentil.
Dans 10 ans.
Et après. Je veux pas lui quitter encore. 10, ça va. Okay. C'est très grave, c'est très grave. Très très grave. Et voilà, ce sont des choses qui sont claires.
Je veux dire, il y a deux liens avec la terre, on a dit que le fait de rester en Israël, trois fois dans la maison de Israël, plutôt qu'en France, parce qu'on est dans la maison de Israël. Alors, ça, c'était le temps, mais j'ai jamais entendu que c'est pas possible.
J'ai rien compris, c'est pas trop vite.
Donc, je vais vous parler tout à l'heure, je vais vous parler avec le juif français et le juif israélien.
C'est la même question ?
Oui.
Bon.
Je vous ai dit que l'un, en gros, il est en campagne actif et que l'autre est en train d'accouchement.
D'accord.
Voilà.
Alors ?
Mais pourtant, on voit, je vous ai dit aussi l'épisode de Daniel Israël. De Moïse en Israël.
Il y a une date de mourir en Israël ? Non, il y a une date de vivre, de monter.
Ah,
oui.
Alors,
c'est pas
que
pour aller bien, mais c'est parce que les gens se retrouvent en. Ah, c'est pas mal, c'est ça. Le fait de monter en Israël, de temps en temps, souvent, il est suivi d'une contraction, d'une douleur. Mais c'est un accouchement. C'est pas une question seulement d'une mitzvah, c'est son identité. Si ça peut être aussi une mitzvah, c'est parce qu'elle avait pas voulu te rajouter une mitzvah en plus, mais c'est son identité. C'est comme si tu me disais, je veux vivre, oui, mais pour vivre. De quoi ? Je vais donner une mitzvah, vite. Je dis merci à toi, je vous déjà, je dis naturellement. En plus, si vous considérez ça comme une mitzvah, je vais donner deux trucs. Ça veut dire, mon temps prêt, c'est vivre. En plus de ça, il se trouve qu'une mitzvah. Ah, ouf, mais c'est accompagné d'une souffrance. Bien fait. Et alors ? C'est accompagné d'une souffrance. Ça veut dire quoi ? Créer le monde de cette manière-là, chacun de nous souffre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire qu'il est heureux complètement ?
Ici, je m'en
rends compte. Quel ? Voilà, un homme heureux. De temps en temps, c'est des petits angoisses, des petits matins. Voilà, il revit. Voilà. Je parle de manière générale. Chacun de nous a des petits trucs, des petits manques, des petits matins, des petits soucis quand tu te maries, tu as des enfants, il y a des soucis de matin. C'est vrai. Mais, en tout cas, tu as fait le maximum de ce que tu as pu. En tout cas, tu te rapproches de ce que tu as tellement veut de toi. Il veut de moi que je vive sur cette terre. Viristem et ta'aret, vitnachaltem ba, ubanubatim, vitnachaltramim, vetado, ce que tu veux. Toutes les mitzvot de la Torah vont dans ce sens-là. Toutes elles sont faites pour ici. Et moi, rien que parce que j'ai une petite angoisse de quelque chose, je viens de voir toutes les mitzvot, ça m'arrange, mais celle-là ne m'arrange pas. C'est quoi ça? C'est comme si tu disais à Kadosh Baruch Hu dans un autre système, pourquoi le système ne marche pas ? Voilà, je prends ton exemple. Demande à la même personne là-bas de ne pas travailler Shabbat. Il va dire non, toute la semaine ça marche moins. Shabbat ça marche à fond. Je ne peux pas à Kadosh Baruch Hu quand même. Pourquoi là-bas il ne fait pas ? Pourquoi il, malgré tout il fait Shabbat ? Parce qu'il y a une certaine confiance à Kadosh Baruch Hu. La même chose que tu as fait confiance pour Shabbat, pour Taparnassa, fais-lui confiance pour venir ici.
D'accord,
mais il y a des amis qui. Parfait. Alors là, il faut des séminaires. Il faut leur expliquer, il faut leur parler gentiment, pour nos frères. Même là-bas. Il y a la plus grande journée de ce matin, t'inquiète pas, il y a des gens qui crèvent de faim même là-bas. D'accord. Ce ne sont pas des références. Ce ne sont pas des références. Des pauvres, ça fait partie de la vie. Ça veut dire quoi ? Créer des riches et des pauvres pour que les riches donnent aux pauvres. L'égalité n'existe pas. On ne peut pas devenir égaux. Il y a des riches et des pauvres, les riches doivent donner aux pauvres. Ça veut dire qu'on donne aux riches pour donner aux pauvres. On ne veut pas devenir communiste comme ici. Il y a des riches et des pauvres. Ça va là. On essaie le maximum de combler le manque de chacun, mais ça fait partie de la vie. Mais la base de tout avant que tu commences à me parler de mitzvot de matin, c'est la vie. Où est-ce que tu vis ? Dans le vrai sens du mot, ok ? Vivre. Ici ou là-bas ? C'est tout. Une femme, elle est venue me voir dans une exposition, elle vient de me dire, « Ah, monsieur, vous êtes courageux de vivre en Israël. » Pourquoi, madame ? Elle me dit parce que c'est toujours des problèmes, il y a des guerres, il y a des machins, vous avez un grand, grand courage. Je dis, moi madame, je trouve que c'est vous qui avez du courage de vivre ici. Elle me dit, pourquoi ? Je dis, parce que là-bas, au maximum, je risque de perdre mon corps. Ici, ça fait longtemps que vous avez perdu votre âme. C'est tout. Alors, où est la vie? Où est la vraie vie? C'est une diaplo. C'est le cas de vie. Je ne la connaissais même pas. Et heureusement, quand même, on m'a donné une fiat d'Ismaël. Bien sûr. Je vous dis par exemple, madame, vous qui venez me dire ça, vous pouvez me dire que tous vos enfants sont mariés avec Jésus et elle a éclaté enfant de l'autre. J'aurais pu me tromper. Mais Baruch HaShem, je ne suis pas comme moi. Baruch HaShem, pas mieux qu'alors. Dans mon droit, à moi. Dans ce lien-là. Mais malheureusement, c'est, malheureusement, je le sais. Ouais. C'est, ça fait partie des chiffres de la journée qui doit aller chercher. Je vois que je commence à devenir intelligent. J'attends même qu'il pose la question. Où se trouve la Jean-Jean? Mais où elle se trouve? Pas là-bas en France. Ici. Il y a plusieurs endroits. Tu peux aller. Oui, je veux demander. Est-ce que vous pouvez me donner? Non. Est-ce qu'on peut avoir? On est en train de faire une étude. On fait une étude. Écoute bien ce que je te dis. On est en train de faire une étude au Marcon Meir pour savoir exactement le pourcentage de mariage unique, d'assimilation. Franchement, est-ce que vous avez des papiers à nous fournir? Personne ne va te dire tout du camp, t'es un rigolo, machin.
Il y a plusieurs bureaux.
Demande au Ravatoul, il va te dire exactement là où il faut le mieux aller.
Comment est-ce qu'on peut réaliser ce but, c'est-à-dire dévoiler Dieu, sur la conscience que c'est pas en fait la finalité. C'est-à-dire que...
Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas la finalité? Quelle est la finalité?
Notre finalité à nous, c'est-à-dire que notre but pour notre autre.
Et alors, quelle est la finalité?
Celle qu'on connaît pas.
Non?
Celle qu'on connaît pas.
Non, on la connaît la finalité.
On connaît pas la visite.
On n'a pas besoin de connaître Dieu. On a besoin de connaître la finalité de sa création. Ça, on le connaît.
Mais le but de la création.
Le but de la création, on connaît. C'est de dévoiler son nom ici. C'est-à-dire de réaliser la vie éternelle ici dans le monde. Ça, on le connaît. Ça veut dire Beth Amigdash, troisième Beth Amigdash, bientôt. Ça veut dire tout ça, on connaît ça.
Mais pourquoi les créations?
Encore une fois, tu reviens à la question de base, ok?
Les
récits. Il y a marqué, le Ramchal dit, ok? Ce sont les kabbalistes qui peuvent répondre à ce genre de questions. Ils disent, tu t'es va à sauver les récits. La nature du bien, c'est de faire du bien. Ça veut dire, ça veut dire, il est bon dans sa nature et il fait le bon. Vous créez les récits, ça veut dire, les kabbalistes à Tava. Pour faire du bien, il faut créer des receveurs de bien. Et pour créer les receveurs de bien, c'est-à-dire le monde, d'accord, le va pouvoir créer le monde tel qu'il est, et à l'intérieur de ce monde-là, il donne le choix de recevoir ou de ne pas recevoir. Donc c'est comme s'il se braque maintenant avec un pistolet et se dit mange cette pomme. Même si tu la manges, ça ne va pas me rendre heureux. Mais si je te donne une pomme et te dis mange-la, c'est bien pour toi, et que tu la manges, tu me fais confiance, ça me rend heureux. Alors, on donne un exemple comme ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, quand ils sont forcés la personne, quand la personne d'elle-même elle comprend ce genre de choses, quand Am Yisrael comprend ce qu'il a fait, ça prend du temps, c'est pas grave, il y en a 6000 ans. Malheureusement, on a perdu un petit peu de temps, mais c'est mal à la chose, ça fait partie de notre processus, mais on y arrive. C'est fini. On arrête le cours.
Maintenant ?
Oui ? Vous voulez encore un peu ? Oui. C'est pas mal. Top, on continue un petit peu encore. Alors, juste on termine le paragraphe. Donc, Tayar Ladali, Tayar Fitre Sivam, donc, Sob Yetiratam, Tayar Ladali. Donc, tout ce qui est pas ce dévoilement-là, je vais vous séparer la prochaine fois. Donc, Yetiratam, c'est l'inverse. C'est comme un organe, en fait. Hein? Donc, c'est l'inverse de leur nature. C'est l'Israël, la Shoahim et l'Idaël Tamim. Alors qu'Israël a dans sa nature une aspiration d'être délivré tout le temps, c'est-à-dire on appartient à la délivrance. Notre nature c'est d'être délivré tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun juif au fond de lui qui ne veut pas venir, qui ne veut pas se réaliser. Il va te dire je ne peux pas, mais jamais il te dira je ne veux pas, c'est très rare. Il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de me dire comme moi, que au fond d'eux, ils sont
codés.
Non, parce que lui, il dit le contraire, il y en a qui sont tous codés. Non, il n'y en a pas aussi. Ils sont tous codés. tous les juifs, tout homme Israël, le code est dans sa naissance. Tous. Sinon, il ment dans ce qui se lève le matin, il dit Elohim, Neshama, Shenata, Tabi, Tero. Comment il dit ça? Même s'il ne dit pas, le fait qu'il vit, il le dit. Et quand il arrive quelque part chez lui, à la maison, même s'il ne fait rien, il dit merci mon Dieu. D'accord? Il y a une reconnaissance. Hein, quelque part, il y a une reconnaissance. Ils le savent. Il a une mezouza à la maison, et il a fait la brisine, il a accompli, il n'a même pas posé de questions. Tiens, bah, Hashem, ne cherche pas la petite bête. La majorité du peuple d'Israël fait ça. Tiens, arrêtez d'être négatif. Donc, la Géoula fait partie de nous. La Géoula dit, l'ou yachokma et l'okita poel. Et cette Géoula, c'est le dévoilement de la sagesse divine. Ça, on va déjà laisser pour la prochaine fois parce que c'est un paquet. Tout est bien là. Ça va, Rabat.